Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, la chanson de Crown.
Flight number 2, arriving from New York.
Disons que ce qui marquait un suicide d'un soldat, puisque bon, le revolver était attribué aux officiers, un soldat pour se suicider, c'était pas si simple parce que il ne pouvait pas se tirer une balle dans la tête avec son fusil était trop grand. Alors il devait se déchausser et poser le fusil par terre et avec son pied nu appuyer sur la détente. Donc quand on trouvait un cadavre avec un pied nu et tué, on savait qu'il s'était suicidé.
Qui a gagné la guerre de 14?
Je crois que personne.
À part la connerie.
Ouais. Je crois que l'humanité a perdu la guerre de 14. Je sais pas qui c'est qui l'a gagné. Je veux pas savoir qui c'est. Surtout pas. Je veux pas savoir.
Oui, mais mon message est pour le 11 novembre. Mon père avait fait toute la guerre de 14-18 comme agent de liaison à vélo, à moto, et il a été, il a eu une légère blessure, car par chance, s'en est sorti bien. C'est ses 4 ans de tranchée. Son frère avait après 2 blessures, une au poignet, à l'épaule, lui est mort en 1916, en plein mois d'août, dans les barbelés éventrés. Chose horrible quand on y pense. J'étais la seule à écouter mon père, qui masse mon frère et ma soeur, je ne m'en jamais intéressée. Alors, le chemin des dames, il y a souvent parlé, le chemin des dames, le bois le prêtre, Verdun, l'enfer de Verdun. Ah, ça. Il était décoré de tout, mais alors, vraiment, il avait bien mérité, le pauvre. Mais, oui, nous devons nous en souvenir parce que. Ils étaient morts pour que nous ayons la paix, pour que les guerres soient finies. Hélas. Bonjour, Daniel Mermet, merci. Suzanne.
Mon père était au chemin des dames, agent de liaison. Il en est revenu indemne, mais a mis au moins 10 ans à ne pas s'en souvenir. Marié en 27, il ne nous a jamais vraiment parlé de ces moments d'inhumanité. Aujourd'hui, j'ai 57 ans et je chiale doucement en écoutant tous ces témoignages, la chanson de Crown, l'évocation d'Yves Gibeau. Pourquoi ? Bien sûr, on s'est battu d'abord pour la plus grande gloire de Schneider et de Wendel. Bien sûr, il fallait épuiser les stocks, expérimenter le matériel, mais souvent, on a profité de cette guerre pour résorber l'excédent de main-d'œuvre provoqué par la mécanisation dans l'agriculture, dans l'industrie. J'ai l'absolue conviction que l'on a cyniquement utilisé cette guerre pour éclaircir les rangs. Et l'on a renvoyé en priorité les paysans et les classes pauvres à l'abattoir. Il faut aller compter les morts sur les monuments de nos villages en Bretagne, un véritable carnage, 10% de la population de l'époque, soit près de la moitié des hommes de 20 à 40 ans. Ceux qui sortaient de la tranchée étaient réellement condamnés à mort. On avait trouvé pour les pauvres et les paysans la solution finale. Du côté allemand, ce fut pareil. Voilà quelques mots dans une des nombreuses lettres qu'on a reçues à la suite de ces émissions sur la chanson de Crown. Beaucoup de mots. Reste à savoir, demande à notre auditeur, ce qu'on célèbre ce jour-là. Que fête-t-on exactement le 11 novembre ? La guerre ou la paix ? La gloire de l'armée ? Que signifie mort pour la France ? Eh oui, on songe à l'idée de cette force de recommencement. En traversant la Champagne, la Somme, l'Aisne, la Marne, en longeant ces immenses cimetières militaires, on pense à quelque chose d'industriel et on se demande s'il n'y a pas là la preuve d'un formidable asservissement. Et on songe à ce vers qui dit « Mourir pour la patrie est le sort le plus beau ». Qui dit ou qui disait Paul Valéry, quant à lui, disait « La guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. »
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu aux civilos. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Là, vous voyez que c'est pas un monument de grande ampleur. Hein.
Alors, c'est là.
Oui, c'est modeste. Hein.
Ah, bah oui. Hein. C'est aussi modeste que les gens qui ont été fusillés. Hein. Parce que c'était des modestes aussi. Hein.
Alors, 1914-1918, les fusillés pour l'exemple. À Port, le 13 novembre 1914, Léonard Lemarie du 305e régiment d'infanterie, ici le 13 février 1915, Louis Berceau du 60e régiment d'infanterie, reconnu innocent et réhabilité après la guerre en 1922-23. Il est fusillé pour l'exemple. Fusillé, 13 novembre 14. Alors, vous, monsieur Gerbeau, vous êtes l'ancien maire ?
L'ancien maire. Vous êtes à Fontenoy. Fontenoy, qui est une commune du canton de Vic-sur-Aisne. C'est une commune qui a été complètement détruite en 1917-1918 et détruite par les Français. Parce que les Allemands, au moment de la seconde offensive de la Marne, étaient arrivés jusque Fontenoy. Hein. Ce qui fait que vous aviez sur l'autre rive les Français et ils ont bombardé la commune pour, en somme, en déloger les Allemands. Ce qui fait que la commune a été totalement rasée. Il restait à peu près trois maisons intactes, et encore.
Voilà, nous sommes à Fontenoy avec donc Monsieur Gerbeau, qui est l'ancien maire, devant ce tout petit, cette toute petite stèle en hommage à deux hommes qui furent fusillés pour l'exemple. Ce qui est émouvant, c'est qu'on vient, il y a très peu de temps, d'ériger cette toute petite stèle, très modeste, près de ce terrain de foot. C'est dimanche, il fait beau, les gars jouent au foot là-bas, un petit match entre deux villages. Et c'est ça l'émotion, c'est que 83 ans après, eh bien, c'est toujours un enjeu, c'est toujours une de ces mémoires qui travaillent depuis si longtemps notre pays, celle de ceux qui furent fusillés. Alors, à Craonne, ça a été une mutinerie en 1917, à la suite, on l'a dit dans les émissions précédentes, de l'attaque du Chemin des Dames, qui a été une catastrophe, une boucherie fantastique. Mais dès le début de la guerre, on a procédé à ces jugements très hâtifs, comme ça, à toute vitesse, on a jugé les hommes et on les a fusillés. Pourquoi ? Parce que ils étaient partis en 1914, l'été de 1914, dit-on la fleur au fusil, dit-on joyeux de gueuler, d'hurler à Berlin. En tous les cas, on leur avait promis qu'ils y allaient, qu'ils revenaient et qu'ils seraient chez eux pour Noël. En fait, bien sûr, ça n'a pas été le cas. La guerre s'est prolongée et les bidasses de 14, les poilus, ce qu'allaient devenir les poilus, étaient pour la plupart des paysans. Et les paysans, ça voulait dire être là, à la ferme, travailler, faire vivre la famille. Et le temps passant, eh bien, c'était un grand désespoir que d'être si loin de chez soi. Alors voilà comment il a fallu faire de la discipline et qu'on a eu recours à ce très vieux procédé. Et c'est là, dans ce village de Fontenoy, qu'a eu lieu l'histoire, la fameuse histoire du pantalon. Comment le soldat Louis Berceau fut fusillé.
Alors l'histoire du pantalon, eh bien c'est, on peut appeler ça une histoire, la tragédie du pantalon, disons. Hein. La tragédie du pantalon. Il y avait dans une ferme qui se trouve à la sortie du village, la ferme de Châtillon, il y avait des Français qui étaient là en réserve. Et Berceau, avait un pantalon qui était un pantalon d'été. Et un gradé lui a fait observer qu'en plein hiver, puisque ça se passait en plein hiver, ça, il devrait mettre un pantalon de drap. Et pour remplacer ce pantalon, on lui a offert un pantalon qu'on venait d'enlever à un camarade tué et qui était plein de sang. Le soldat Berceau a refusé d'enfiler ce pantalon. Refus d'obéissance devant l'ennemi, bien que l'ennemi n'était pas là. Et après un procès qui a duré une nuit et puis une journée, où il appelait sa famille, où il appelait au secours, où il essayait de lutter contre le destin qu'on allait lui infliger. Et il a été fusillé, et c'était peut-être, il y avait une ferme là, c'était peut-être là, c'était peut-être aussi dans la ferme un peu plus loin, et il y avait à la place du terrain de sport, et à la place ici, il y avait un château là, un parc. C'était le château des Mardançons. Et il a été fusillé dans ce champ, certainement là où il y a le terrain de football, c'était un champ, on a fusillé le Berzola. Il a été enterré, naturellement, d'une façon tout à fait anonyme, à la sauvette, soit près de la ferme qui est au-dessus, soit là.
On ne sait pas où, on ne connaît pas le lieu de
ça. On ne connaît pas le lieu exactement. Enfin, c'est tout à fait près d'ici. Uh-huh. Parce que ça se faisait dans la plus grande discrétion, naturellement. On fusillait les gens en grand spectacle, parce que toute la troupe était réunie, tous les soldats étaient réunis. Mais quand on les enterrait, on ne peut plus discret. On ne voulait pas qu'il y ait des manifestations sur la tombe.
Jean Bobin, pourquoi ces mises en scène, pourquoi ces symboles, pourquoi c'était bien ça l'idée, hein?
Ah oui, tout à fait. La mise en scène des exécutions est tout à fait impressionnante, puisque toute l'armée qui est présente dans le secteur est alignée en régiment. Le soldat est fusillé et ensuite tous les soldats doivent défiler devant le cadavre de l'exécuté. Alors ces mises en scène se ressortent d'une idée de la discipline militaire, comme quoi il faut intimider les soldats, que si la peur de l'exécution et de la mort n'est pas présente, les soldats risquent de désobéir. En plus, il faut se replacer dans le moment. Le moment, c'est que nous sommes à la fin de 1914, début de 1915. On a promis aux soldats en 1914 que la guerre s'arrêterait à Noël. Et en fait, la guerre ne s'arrête pas du tout. Alors, les soldats commencent à trouver que la guerre dure. Et pour le faire supporter le fait que ça dure, eh bien, l'état-major pense qu'il faut des exécutions. C'est un jugement, on peut penser, dépassé. Mais c'est un jugement qui était traditionnel dans les armées depuis de très très nombreuses années, depuis plusieurs siècles même. On disait qu'il fallait de temps en temps des exécutions, pour l'exemple, pour raffermir la discipline.
Y apparaît-il dans une roseraie une rose qu'on appelle veuve inconsolable du regretté président Doumergue? C'est triste, c'est regrettable. Il y a, ou plutôt il y a eu, un homme qui a écrit ces mots. Demain, sur nos tombeaux, les blés seront plus beaux. C'est triste, c'est regrettable, parce que les blés ne poussent pas précisément sur les tombeaux des hommes qui sont tombés pour que monte ou descende le cours du blé, ou même le cours de la pensée, du charbon ou des fleurs. C'est regrettable. Mais les gerbes sont liées, le travailleur aussi, avec leur grand billet, les grands défavorisés se sont payés sa tête et son corps tout entier. Avec tout le travail de toutes ces années, toutes les gerbes sont liées. Chaque grain est compté, chaque geste capté, chaque fleur arrachée. Le blé monte et descend, en même temps que l'argent, en même temps que le sucre, en même temps que l'acier, le compte du travailleur est sagement réglé à l'octroi du profit. La guerre est déclarée. Et sur la terre encore fraîchement remuée dans les ruines des villes par eux-mêmes bâties, ceux qui étaient les plus vivants et les plus forts, les plus gais, les meilleurs, restent là immobiles, couchés au champ d'honneur. La tête dans la mort et la fleur au fusil. La mémorable fleur de leur si simple vie. Et la fleur à son tour doucement se pourrit. La fleur des amours, la fleur des amis. Et sur ce champ d'honneur et de profit, un peu plus tard, sur ce champ d'honneur soigneusement nivelé, toute seule, la fleur artificielle, la rose invraisemblable, la fleur à faire vomir, la fleur à faire hurler, la veuve inconsolable du président untel, blême et rose chou-fleur, atrocement greffé, ignoble végétal, stupidement simulé encore une fois, de force et avec le concours assuré de la musique militaire, est accroché, épinglé, rivé à la boutonnière de la terre abîmée, de la terre solitaire, de la terre saccagée, bafoué et désolé, désespéré, endimanché. Jacques Prévert. Revenons un petit peu en arrière. On est parti en 14, vraiment la fleur au fusil, joyeux, heureux. Ça venait après quoi? Ça venait après des années de une sorte de culture de la revanche.
Oui, c'est plus qu'une culture de la revanche. C'est une culture de nationalisme, une culture de guerre.
Qui date depuis 70.
Oui, qui date même, en fait, depuis avant. Hein. En fait, on peut dire malheureusement que c'est tout le 19e siècle, et c'est à partir de Napoléon qu'on s'est lancé dans une culture de guerre qui n'existait pas avant, puisque avant, la guerre était faite par des professionnels, comme elle va le redevenir maintenant, mais n'était faite pas par, jamais par les civils. Donc à partir des guerres de Napoléon, on a lancé l'idée que la guerre était l'affaire de la nation, et que dans ces conditions, pour motiver les soldats, il fallait, puisque avant les soldats étaient motivés uniquement, c'était des soldats professionnels qui combattaient parce qu'ils étaient payés pour ça. À partir de Napoléon, ce sont des conscrits qui sont payés, qui sont très peu payés. Donc en fait, on trouve comme moyen de les lancer dans les attaques, c'est le nationalisme. Donc cette culture de nationalisme prend absolument toutes les formes.
Vous voulez dire par là que la patrie, toutes ces idées-là viennent avec Napoléon?
Ah oui, à coup sûr, c'est la Révolution française et Napoléon qui ont lancé l'idée de patrie. Mais ça s'est beaucoup renforcé après 70, et si vous prenez les livres de classe, c'est ça qui est fascinant, les livres de classe que les élèves de l'école de Jules Ferry lisaient, il y a une exaltation de l'armée extraordinaire. Il y a des grands moments dans lesquels on dit que le plus beau métier, la plus belle fonction, plus qu'un métier, la plus belle tâche pour un garçon, c'est d'être soldat. On dit « tu seras soldat ». Et puis on habitue les enfants à faire des exercices qu'on appellerait aujourd'hui de gymnastique, mais qui ont quand même un côté militaire, puisqu'on leur donne des armes en bois, on les fait défiler ou pas. Les militaires ont un statut social extraordinaire, on considère qu'ils sont vraiment au-dessus. Hein. C'est-à-dire que tous les gens qui veulent faire carrière, les jeunes qui veulent faire carrière, ne pensent qu'à une chose, entrer dans l'armée. Donc il y a une espèce d'exaltation de l'armée, une exaltation également des valeurs nationales.
Sur l'enjeu de l'Alsace et la Lorraine.
Oui, pas seulement, sur l'enjeu, l'idée que les peuples doivent sont rentrés dans une ère de compétition et qui doivent montrer qu'ils sont meilleurs que les autres, que la guerre est quelque chose d'inévitable surtout. C'est-à-dire qu'on persuade les gens sont persuadés que la guerre est inévitable et que ça fait partie des choses de la vie. Même si il y a quand même un enthousiasme plus modéré qu'on ne pense. C'est-à-dire qu'on dit en 14 les gens sont partis de la fleur au fusil. Bon, il faudrait voir dans quelle mesure les photos ou les films qui ont été pris n'ont pas été arrangés par la propagande militaire, parce que on sait très bien qu'en fait, dans beaucoup de campagnes, les jeunes qui partaient, les mères les accompagnaient en pleurant, et qu'en fait, ils ne sont pas partis gaiement en 14. Ils sont partis d'une façon décidée, parce qu'ils pensaient qu'il fallait faire la guerre, que ça faisait partie des devoirs, et en plus, on leur avait dit que la guerre serait courte. Ils pensaient que la guerre, on leur avait dit, vous serez rentrés à Noël. Donc une guerre courte, il y aurait des pertes, mais la guerre ne durerait pas longtemps. Tout ce qui a changé, c'est que la guerre de 14 est devenue longue. Si elle s'était arrêtée très rapidement, elle aurait été comme d'autres guerres. La tragédie de cette guerre, c'est qu'elle a duré très longtemps. Et que surtout, on a inventé des machines à tuer qui n'avaient plus de rapport avec les valeurs traditionnelles. Du courage individuel, de la baïonnette, enfin ça n'avait plus aucun rapport. Donc les soldats, et même les généraux d'ailleurs, étaient imbus d'idées qui ont été complètement dépassées par la technique.
Et voilà, c'est ça, il y a un développement industriel, technique, formidable.
Oui, c'est ça qui est frappant ici, par exemple, j'ai lu des récits de la bataille de l'Aisne qui a eu lieu lorsque les Français, au mois de septembre, fin septembre, ont essayé de monter sur le plateau. Des deux côtés, on est absolument stupéfait de voir que les soldats chargent les uns contre les autres, baïonnettes au canon, et ils chargent contre des canons et des mitrailleuses. Donc les pertes sont absolument colossales, puisqu'un obus lancé, et les canons de cette époque tirent énormément de buts, le 75 tire de très nombreuses obus à la minute, un obus lancé contre des masses de soldats au coude à coude fait des ravages absolument incroyables. Tous ces champs sont couverts de morts. Après les guerres, sont vraiment couverts, parsemés de morts. Les soldats marchent sur les cadavres, il ne va pas faire autrement tellement il y a de morts. Et disons qu'ils découvrent, en fait, les conséquences des inventions techniques auxquelles ils n'avaient pas pensé. Les soldats de la guerre de 14 résonnaient comme à l'époque de Napoléon, comme à l'époque des charges de cavalerie, comme à l'époque des fusils au tir très lent. des combats au sabre. En fait, en 1914, on a des armes très modernes avec des mentalités qui ne sont pas modernes. Et comme souvent dans ces cas-là, ce décalage provoque des gaspillages humains. Il y a un gaspillage humain énorme.
Alors, il y aura l'invention du char. Quand on arrive ici dans la région, on voit un hommage rendu au char d'assaut. Ce sera aussi des industries et des industriels qui vont se développer, Krupp en Allemagne, chez nous en France, ce sera le Creusot, Schneider, etc., ouais, qui vont développer des industries et des sidérurgies d'armement absolument fantastiques, colossales.
Oui, c'est vrai. Et en France, il y a Renault et Citroën qui ont fait fortune, notamment avec le matériel de guerre.
Ils ont Panhard aussi, non ?
Panhard aussi, oui. Enfin, Renault, c'est clair. Renault a fait fortune en fabriquant un char qui a bien marché, en fabriquant avant des obus. Et donc, c'est vrai que la guerre est entrée dans une ère industrielle. Mais en 14, les chars vont intervenir seulement à la fin. Ce qui est effrayant pour les soldats, ce sont les obus. Il est lancé des quantités d'obus absolument stupéfiantes. Et d'abord, on se demande comment les soldats peuvent résister à de telles quantités d'obus alors qu'ils sont sur place. Ils s'abritent dans des tranchées. Alors, ils sont sauvés, en fait. Ils sont préservés par le fait qu'il y a de la boue. Parce que la boue, évidemment, atténue l'effet des explosions, amortit un petit peu. Mais la boue est aussi l'ennemi des soldats, puisqu'à certains moments, les soldats blessés, il y a tellement de boue que les soldats blessés sont engloutis et meurent asphyxiés. Et on en retrouve aujourd'hui, il y a beaucoup de soldats qui sont tombés, qu'on n'a jamais retrouvés, parce qu'ils étaient littéralement avalés par la terre.
Pendant 4 années de furie, l'Europe s'est acharnée à se détruire. Elle a sacrifié la plus belle de ses richesses, la plus irremplaçable. Une jeunesse ardente, la plus belle jeunesse du monde. La jeunesse civilisée. Civilisée.
Vous voyez, premier soir, le croissant.
Ah, on est où là, au juste ?
On est à Confrécourt, commune de Nouveron-Vingré, devant la grotte qui a été aménagé par le premier ZOAP, dont on voit l'insigne, un croissant, puisque c'est un régiment qui venait d'Algérie, un 1 et un Z. Alors il s'agit de...
Ça veut dire qu'il y avait des musulmans ?
Absolument. C'était des troupes mixtes, formées d'Européens, de musulmans, oui, qui ont aménagé la grotte.
Comment on disait, des Français musulmans d'Algérie ?
Oui, absolument.
Comme on disait à l'époque, c'est des Algériens d'Algérie, se sont fait massacrer.
Absolument, beaucoup.
Dans cette histoire.
Pas seulement des Algériens, il y a eu aussi des Africains, qu'on appelait les Sénégalais, mais ils ne venaient pas tous du Sénégal, en fait. Il y en a beaucoup qui venaient du Mali, mais on les appelait les tirailleurs sénégalais. Et puis, il y a eu aussi des Malgaches, il y a eu de toutes les nationalités, il y a eu des Indochinois qui sont venus, des Vietnamiens aujourd'hui. Alors, les Vietnamiens n'étaient pas mis en ligne, parce que les généraux français doutaient de leur valeur guerrière. C'est dire s'ils avaient peut-être peu de perspicacité. Ils pensaient que les Vietnamiens étaient de constitution trop frêle pour combattre, et ils les mettaient à l'arrière pour conduire les camions, creuser les fosses, etc.
Ce qui montre au passage que les Vietnamiens sont effectivement d'excellents stratèges.
Oui, absolument. Donc, les musulmans sont venus nombreux et ils avaient tous une tenue particulièrement voyante puisqu'ils étaient engagés dans les zouaves. Ils avaient une superbe tenue bleue avec une culotte très large, une veste avec des brodures d'argent, d'or, rouge, etc. qui en faisaient des très bonnes cibles. Et donc, les zouaves ont combattu ici dès 1914.
La France se refait, et selon moi, elle ne pouvait pas se refaire autrement que par la guerre qui la purifie, déclare le cardinal Baudrillard en 1914. L'archevêque de Bordeaux, insiste, la guerre est un apôtre suscité de Dieu dans un but de régénération religieuse, morale et sociale. Le père Sertilange évoque l'instant où le capitaine tire son revolver de l'étui en s'écriant « C'est la minute divine !» En avant. Et de l'autre côté, l'aumônier allemand Schetter dit « Si l'on donne aux soldats le fer froid, c'est pour qu'ils s'en servent sans timidité. Il doit l'enfoncer dans les côtes de l'ennemi. Il doit briser son arme sur leur crâne. Tel est son devoir sacré son service divin. La patrie, alors, pour nos pères, grands-pères, arrière-grands-pères aujourd'hui, était quelque chose de sacré, était devenu quelque chose de sacré qui remplaçait tout le reste, une sorte d'aveuglement qui peut expliquer probablement, en partie, mais en partie seulement, cette fabuleuse boucherie qui, selon Henri Barbus, auteur du Feu, avec l'argent dépensé entre 1914 et 1918, 15 000 milliards de francs de 1949, on aurait pu donner une maison toute meublée avec 2 hectares de terrain à chacune des familles des États-Unis, du Canada, d'Angleterre, d'Irlande, de France, d'Allemagne et de Russie, et doter dans le monde entier chaque ville de plus de 200 000 habitants d'un hôpital, d'une université et d'une bibliothèque. Ces chiffres-là ont-ils un sens pour nous aujourd'hui? Peut-être que c'est dans ce genre d'endroit, dans cette grotte, une de ces grottes nombreuses, où les soldats, allemands comme français d'ailleurs, attendaient des jours dans la pénombre de ces grottes, de retourner, rencontrer probablement, très probablement, leur mort. Rappelons le bilan de 8 à 10 millions de morts pour cette guerre de 14. Mais il y a ces moments où on retrouve, et on est nombreux en France à avoir retrouvé dans nos greniers, dans un jour, une lettre d'un parent comme celle-ci, Marc qui écrivait à Germaine, « Les photos reçues ces derniers jours sont ma meilleure compagnie. 20 fois par jour, je les tire de mon portefeuille et je vous regarde. » Mais de l'autre côté, en Allemagne, Barbara, une certaine Barbara à l'époque, recevait de Fritz, un certain Fritz, oui, il s'appelait comme ça, une lettre qu'on peut traduire comme ça. « Une nouvelle fois, j'ai pris ta photo dans mes mains et je l'ai contemplée longuement. Je revois ce moment que nous avons vécu ensemble en ce beau soir d'été de la dernière année de paix lorsque nous nous dirigions vers notre maison à travers le parterre de fleurs. » N'oublions pas que la chanson de Craon était avant tout et d'abord une chanson d'amour.
C'est très très touchant quand même. Hein?
Oui, par exemple, cette mention, c'est touchant.
Regardez. 47e, 417e bataillon de l'infanterie, sergent Guittard tué à ce poste le 27 janvier 1916. Donc c'est un de ses copains qui lui a sculpté un graffiti.
Qui a sculpté le graffiti et qui a sculpté à côté d'une branche de laurier.
Oui, tout à fait.
Très touchant. Ça veut dire que les gars, quand même, s'ils avaient le temps de sculpter tout ça, c'est qu'ils restaient là très longtemps, quoi.
Ah oui, absolument. Et puis finalement, il faut quand même dire que la guerre, en dehors des périodes d'assaut, la guerre était quand même une longue attente. Puisqu'en fait, ils étaient au front, ils ne restaient pas très longtemps au front, puisque c'était extrêmement éprouvant. Au bout de 3-4 jours, les survivants du front étaient relevés et ils venaient se reposer ici pendant 15 jours. Et c'est vrai qu'ils n'avaient rien à faire. Ouais. Donc ils sculptaient et puis ils essayaient de manifester un peu leur existence. Okay. Alors on fasse une plaque aussi, mais qui tente à s'effacer, qui n'est pas très émouvante aussi. Donc la liste des tués pour l'année, alors ça commence à s'effacer, pour ce régiment.
Ouais, la liste des tués de quelle année?
Des tués de 1916, je crois. Donc chaque jour, mai, 14 mai, donc Doussan, Caporal Doussan a été tué, etc. Donc ça va jusqu'au juillet et ça commence, je ne sais pas quand, janvier.
Peut-être qu'une lettre comme celle-là a été écrite dans cet endroit d'Arthur à un ami. Envers le Bosch, je n'ai pas d'autre sentiment que celui d'une fraternelle amitié en pensant qu'il doit se tenir là-bas, exactement comme nous, et faire toutes les choses horribles et inutiles que nous faisons alors qu'il pourrait être chez lui, avec sa femme ou avec ses copains, selon ses préférences.
Donc voilà, ici, c'est la chapelle.
Ah, voilà, c'est ça. Dieu protège la France. Et on voit ça, on est dans l'obscurité, on a juste 2 bougies pour voir ça.
Alors ce qui est curieux, c'est que les soldats ont retrouvé un peu les réflexes des hommes de l'époque des grottes qui mettaient les lieux sacrés tout au fond. Et là, partout dans toutes les grottes, quand il y a une chapelle, elle est dans la partie la plus profonde. Disons que les catholiques suivaient la messe avant de monter au fond. Alors, à droite, quelque chose d'assez curieux, c'est
un escalier qui
monte au plateau. C'est-à-dire qu'à la limite, les hommes qui montaient au front passaient à côté de la chapelle. Et quand ils montaient 10 mètres plus haut, pour se monter 10 mètres plus haut, ils avaient de fortes chances de redescendre à l'état de cadavre. Pourquoi cette guerre est arrivée ? Personne ne sait très bien. Parce qu'au fond, aucune des raisons invoquées n'était vraiment vitale. Par exemple, que la France récupère l'Alsace-Lorraine, après tout, à la limite, elle pouvait s'en passer, puisque depuis 1870, la France s'en passait et se développait. Donc, l'enjeu de l'Alsace-Lorraine n'a été évoqué qu'après. En fait, chaque pays a déclaré officiellement qu'il faisait la guerre dans un but défensif, parce qu'il pensait que l'autre allait l'attaquer. C'est ce qui a été invoqué dans chaque pays. Chaque pays a dit, alors, les Français, c'était pour se protéger des Allemands, et les Allemands, c'était pour se protéger des Russes.
Est-ce que ça n'a pas été une solution à l'agitation sociale et aux luttes sociales qui grandissaient dans ces pays ?
Ce n'est pas impossible du tout. C'est pas impossible. C'est vrai que les milieux de gauche ont développé cette théorie qui a été extrêmement répandue dans les milieux ouvriers, en disant... moi, j'ai eu un père qui était ouvrier, qui m'a dit, de toute façon, quand les ouvriers s'agitent, quand les ouvriers s'agitent trop, on leur fait une bonne guerre, comme ça, ils ne s'agitent plus. Mais je pense que c'est peut-être pas la seule explication. Il y a une espèce d'aveuglement qui est confondant. Moi, je ne sais pas, pour un historien, on trouve que les gens... Disons que on peut se demander s'il y a eu vraiment des hommes d'État à la hauteur, c'est-à-dire de vrais hommes d'État, c'est-à-dire des gens qui précèdent l'événement. Enfin, c'est très très rare, c'est ce qui différencie les hommes vraiment d'État des hommes politiques. C'est-à-dire un homme d'État est celui qui pressent ce qui va venir et qui ne se trompe pas trop. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense qu'il n'y a eu que guère que Jaurès qui a compris ce qui allait arriver. Parce que pour les autres, ils n'ont pas du tout compris ce qui allait arriver. Quand on voit le président de la République de l'époque, Poincaré, qui est un des responsables directs de la guerre, il faut quand même le dire, faire ces déclarations, c'est hallucinant. On se demande comment un homme de cette envergure, à cette place, peut prendre la guerre aussi légèrement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les gens se sont totalement aveuglés.
Ce crime, parce qu'il s'agit bel et bien d'un crime, a rapporté à qui ? Devait rapporter à qui ?
Bah écoutez, on ne sait pas très bien, là encore une... On ne sait pas très bien.
Bonsoir, France Inter, ici Robert de Nîmes. J'appelle pour dire tout le bien que je pense de l'émission, mais aussi pour signaler l'existence d'un monument aux morts un peu particulier qui est situé dans un petit village des Cévennes qui s'appelle Vabre. Ce monument aux morts, qui en fait est une plaque de marbre qui était placée dans la mairie, porte l'inscription suivante: dans la mesure où dans ce village il n'y a eu que deux tués pendant la guerre de 14, les deux noms des personnes tuées, morts, victimes du capitalisme. C'est assez rare pour être signalé, je crois. Cependant, il faut savoir qu'actuellement, cette plaque a disparu. Compte tenu des changements des municipalités, elle a été mise en avant ou au contraire descendue à la cave. Et depuis quelques années, elle n'est plus visible dans ce village où pourtant on pouvait encore la voir il y a une dizaine d'années. Au revoir.
Alors voilà, vos messages se mêlent à cette balade avec Jean Bobin, qui est prof d'histoire et qui a une compétence très très pointue sur ce qui s'est passé dans cette région, et tout spécialement sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les mutineries de 1917. Et là, cette grotte, la grotte de Gonfricourt, où les hommes ont attendu très longtemps, des jours, des nuits, jusqu'au moment où soudain il fallait sortir, il fallait sauter, il fallait tâcher de rester vivant, tout simplement, face aux tirs des tirs des adversaires. Avec la à avec la mort au bout, avec le désespoir au bout, avec un dégoût terrible qui fut celui de ces hommes qui si longtemps se sont tus et qu'on a probablement réduit au silence, puisque aujourd'hui toujours, et c'est bien la question que posent des historiens comme Jean Bobin, pour les archives en partie sont toujours fermées, celles de la guerre, de cette guerre sont toujours fermées, et notamment celles concernant les mutineries de 1917. Et on voit les 11 novembre se succèdent, mais la guerre de 14 à bien des égards reste un enjeu de mémoire. N'oublions pas ce que disait Sartre: quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent.
On n'a pas du tout parlé de la façon dont tout ça a été raconté, les médias, les médias pendant la guerre. Bah, les médias pendant la guerre faisaient partie des raisons de mécontentement des soldats, parce que les médias soumis à la censure devaient donner des nouvelles exagérément optimistes, et on surnommait ça évidemment le bourrage de crâne. Et ces médias racontaient sur ordre des histoires absolument délirantes qui scandalisaient les soldats, du genre que les balles allemandes traversaient les chairs des soldats français sans les blesser, que les obus allemands n'éclataient jamais, que les Allemands se rendaient dès qu'on leur montrait une boule de pain. Donc une série d'histoires absurdes que les soldats lisaient quand ils rentraient de permission et qui les scandalisaient, parce que la réalité était tout autre.
Et alors, ce qui est frappant, c'est le nombre de photos. On a énormément de photos de cette guerre, énormément de dessins, bien sûr. Ça veut dire qu'il y avait un photographe sur
chaque... Absolument, absolument. Il y avait des photographes, et par exemple, j'ai suivi comment on a trouvé un photographe pour le secteur de Soissons. Tout simplement, on a demandé au photographe de la ville. On a mobilisé le photographe de la ville. Il y avait dans la ville de Soissons un très bon photographe commerçant. Et on lui a dit qu'il était désormais photographe au service photographique de l'armée. Donc, les photos, ça a été très couvert très abondamment par beaucoup de photos.
Quel était le but de ça? Pourquoi une telle couverture si par ailleurs on voulait dissimuler certaines choses?
Bon, je pense qu'on ne publiait que les photos qu'on voulait publier, ça c'est sûr. Et certaines photos étaient retouchées, on le voit. Mais je pense qu'il y avait une volonté de fixer tout ce qui se passait. Et puis c'est aussi la passion des photographes eux-mêmes. Je pense qu'il ne faut pas oublier que les photographes eux-mêmes étaient des hommes qui étaient absolument passionnés par ce qui se passait, angoissés mais aussi passionnés, et qui formaient des collections personnelles, à la limite sans forcément les envoyer toutes. Ces photographes d'ailleurs prenaient beaucoup de risques parce qu'il n'y avait pas de téléobjectif, il ne faut pas l'oublier. Donc pour faire des photos de près, ils devaient aller vraiment très près. Ne pas oublier qu'en fait, il y avait très peu de photos d'offensives. Parce qu'une photo d'offensive devait être faite par le photographe, pas une photo d'assaut en première ligne. Dans ce cas-là, le photographe devait aller avec les soldats et son appareil à l'assaut des tranchées allemandes. Imaginez le malheureux type encombré par les appareils de cette époque, qui était quand même très bon, mais très encombrant. À l'assaut, il avait toutes les chances de se faire descendre. Et beaucoup de photographes se sont fait descendre.
Pierre Bourdeau à Ancenis. Notre maire nous avait demandé de commémorer devant nos élèves le 11 novembre, ce que j'ai fait avec un texte de ma plume. Le 11 novembre, il s'agit d'un enfant, d'alors à qui s'adresse le narrateur. Avec tes camarades rassemblés devant le monument aux morts, écharpe au ras de ton nez rougi, touillant du bout de la galoche le gravier du cimetière, tu entendais, sans bien comprendre pourquoi, cette lugubre sonnerie aux morts, lentement corné au clairon dans le silence des regards baissés. Ce monument qui montrait une mère, muette, cachant sa tête dans ses mains, devant le cadavre de son enfant soldat, couché, raide, en sa capote de piou-piou. Ce monument que fixaient des hommes, jeunes alors, qui en avaient pour des années à vieillir, un peu ridicule encore de cacher leurs larmes derrière une moustache tremblante et devant une population dont l'indifférence polie croissait avec le temps, allant jusqu'à les croire responsables d'une guerre qu'ils avaient faite malgré eux, auréolée d'une gloire tissée surtout de bêtises et tressée par des pouvoirs soulagés de ne pas devoir rendre aux morts des comptes, de l'ignominie qui avait brisé leur jeunesse, brisé celle de leurs amours devenus éternelles veuves de guerre, brisé la vieillesse de leurs parents soudain orphelins, brisé l'enfant de leurs petits condamnés à grandir sans la force d'un père. Tu les voyais, agrippés à leurs drapeaux, coiffés de calots que l'âge ferait glisser de travioles, leurs bras confisqués par un obus, leurs visages hachés par un éclat de mitraille, leurs jambes enfuies quelque part dans un champ pourri de la Somme, dans ces pays de cauchemars ouverts à tout vent d'invasion, crevés d'âge en âge par des hordes venues de l'Est. Baïonnette au canon, il s'était promené au chemin des dames. Un tel nom, on aurait cru pouvoir y folâtrer. Mais si leur corps était là devant toi, s'appuyant sur un pilon ou voituré par un proche, leur âme n'en était jamais revenue. Un jour, tu as trouvé une carte postale où un petit garçon en chemise, dans son blanc liquage, prie Dieu de lui rendre son papa soldat. Ce n'était pas à Dieu de faire ça, mais à Guillaume, à Joffre, à Nivelle, à tous les autres, à toutes les bedaines galonnées, à toutes les badernes qui auraient été trop lourdes pour jaillir des tranchées trop raides, pour courir sous les rafales, trop délicates pour dormir dans la merde des feuillets. Oh, ils le firent, mais dans un cercueil, quand on le put. Tu ne compris que plus tard le silence de tes oncles, dès qu'on parlait de la guerre, murés dans leur douleur, déchirés entre le désir de chasser les ombres et la peur de perdre encore une fois leurs voisins de souffrance, taraudés par l'idée que personne ne pouvait comprendre et qu'au fond, tout le monde s'en foutait. La grande muette avait fait d'eux des infirmes et surtout des muets. Adusum privatum, bien entendu. Au revoir et merci.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Daniel Mermet du 12 novembre 1997. Merci à Monsieur Gerbeau, l'ancien maire de Fontenoy, à Jean Bobin et à Raïssa Blankoff qui a préparé cette émission. Quant à la chanson de Crâne, elle était interprétée par Marc Augeret. D'autre part, nous vous signalons que le festival Le Travail, c'est la Santé se tiendra jusqu'au 25 novembre à Paris, à l'espace Confluence, qui est situé au 190 boulevard de Charonne dans le 20e arrondissement de Paris. Le thème de la santé au travail sera abordé à travers des performances théâtrales, une exposition photo, des documentaires et des rencontres débats. Mais toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émissions. Là-bas, si j'y suis. À la technique, aujourd'hui, il y avait Jean-Philippe Jeanne et Alain Armstam. Réalisation, Yann Jouquet et Coy Nguyen. Assistante, Charlotte Perry. Et le chef du répondeur est Christophe Imbert. Je vous rappelle le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis. 01 56 40 37 37.
Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février, à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui pignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins nourris en maçon. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, on lui apprendra ses voltaires. Il crie, pleure, il s'indigne de cet immonde mise à mort, mais oublie que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Et des usines de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierai pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du 16e siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié, ces imbéciles. sang qui coula du génois, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens sur toutes ces boutons, effrayés par la liberté, sans en emboîter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin un débarquement de Normandie. Il pense aux braves soldats américains qui a dû se faire très loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens là. Être des sourcils de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des consuls centraux, me dit pas qu'il est portugais. On l'a fête au mois de juillet, en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur s'en ramène, bras ouverts il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène de Santiago jusqu'à Paris. Mettez sous le signe de l'Hexagone. Il est français, ce j'en suis sûr. Qui dit les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exploitent le sang de la terre, un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à cet arrêt. En novembre, au salon d'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qui ne pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, TRC, c'est l'opium du peuple de France. Puis supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffée, les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marrons. Être des soucis de l'Hexagone, on peut pas